Le secret de Nouvelle Vie depuis 30 ans, c'est que nous connaissons la puissance du lieu secret. Nous savons que tout prend place dans la prière. C'est pour ça que nous commençons l'année avec cette série sur tous nos sites en même temps, en découvrant les prières de la Bible. Parce que la prière, c'est une conversation, c'est un cœur à cœur avec le Créateur qui change tout. La prière est un cœur à cœur avec le Créateur qui change tout et qui rend possible les plus beaux commencements même après les pires crises. Et ceux qui l'ont vécu, voulez-vous le témoigner et dire amen? Et voulez-vous applaudir pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin? La prière? La prière, c'est l'accès à toute l'abondance, à l'apaisement de l'amour de Dieu. La prière permet de me développer et de découvrir de nouveaux désirs, de nouvelles dimensions dans ma destinée. Année après année, si je vais dans la présence de Dieu, il me fait découvrir ce qu'il a préparé pour moi, les nouvelles, même il met en nous de nouveaux désirs pour lui, pour son royaume, toujours un pas de plus vers notre destinée. La prière, c'est une porte ouverte à sa présence qui, au milieu de tout le chaos, nous procure une paix, malgré toutes les pressions, malgré les pertes et même malgré les peurs. La prière me guide et me fait grandir dans sa grâce. C'est la prière qui me permet de guérir. La prière me permet de me connaître, de me corriger, de combattre, d'être consolé, d'être rempli d'un courage au-delà de mes capacités humaines. C'est la prière qui renouvelle mon courage dans tout ce que, au-delà de ce que moi je peux concevoir. La prière transforme mes cicatrices en conquêtes et transforme les pires tempêtes en témoignages. Ça, c'est la prière, la présence de Dieu. La prière, c'est le surnaturel dans la plus grande simplicité. Il n'y a rien de plus simple qu'un cœur qui crie vers Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un moment où Anne, une femme, son cœur était tellement brisé qu'elle priait à Dieu, mais c'était inaudible à l'oreille humaine. Seulement ses lèvres qui bougeaient, mais le ciel s'est mis en opération. La prière, c'est le surnaturel dans la plus grande simplicité. La prière, c'est le miraculeux qui peut prendre place en un moment. Un moment en prière, dans la présence de Dieu, peut tout changer. Dans un moment, Dieu peut guérir. Dans un moment, il peut renverser les ténèbres. Dans un moment, il peut tout changer de nos cœurs. Dans un moment, il peut guérir une famille, un cœur. Il peut guérir un couple. Il peut guérir un passé et un avenir. La prière, c'est une relation. C'est jamais un rituel. C'est jamais religieux. Mais c'est une relation qui me rend capable de me relever. Parfois, la prière, c'est la relation qui me permet d'être réveillé spirituellement, de me repentir, de venir à la repentance par l'Esprit de Dieu, de revenir, de rebâtir, d'être renouvelé. La prière me permet de recevoir toutes les richesses de Dieu non réclamées. Tous les trésors de Dieu. Il a tous les trésors qu'il a préparés pour nous, qui sont non réclamés. Le ciel est rempli de trésors non réclamés pour nous en 2023. À la fin de l'année 2022, j'ai lu cet article sur l'Auto-Québec. Et là, n'envoyez-moi pas de courriel, je suis 100% contre toute forme de loterie, de gambling, de jeu. Notre confiance est en Dieu. Mais j'étais vraiment, j'étais surpris, je n'avais pas réalisé qu'à chaque année, il y a plein de gagnants qui ne réclament pas leur prix. Par exemple, à la fin du mois de décembre, aller jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai vérifié, il y a 4 personnes dans le Grand Montréal qui ont gagné 4 millions chacun et ne sont pas allés le réclamer. Il y en a qui vérifient leur billet en ce moment. Il y a pas de billet ici. 4 personnes, 4 millions chacun qui n'ont pas réclamé. Puis l'autre chose que je ne savais pas, saviez-vous qu'il y a des dates d'expiration pour réclamer son prix à l'Auto-Québec. Après un certain temps, le 2 février, par exemple, le 2 février 2023, 10 millions de dollars non réclamés vont être perdus. Est-ce que je peux vous annoncer une bonne nouvelle en ce début d'année 2023? Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Les richesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration, mais il faut les réclamer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais déclarer l'année 2023, l'année où chacun d'entre nous allons aller réclamer les promesses, peut-être que l'ennemi avait volé, les promesses qu'on avait laissées. Combien sont désireux, on se crie dans leur cœur, 2023, l'année où on va réclamer les promesses de Dieu ensemble. Aller chercher toutes les promesses de Dieu. Il y a quelques années, lorsque je regarde cette salle ce matin, je suis tellement ému de voir ce que Dieu fait. Est-ce que vous réalisez Nouvelle Vie, La Prairie? Est-ce que vous réalisez qu'il y a quelques années, cette Église ne pouvait imaginer toutes les richesses non réclamées que Dieu avait encore de préparer pour nous? Parce qu'on pensait, depuis 2017, qu'on en 2016, 2015, qui aurait pu imaginer tout ce que Dieu avait de préparer pour nous en tant qu'Église, ce qu'il était pour faire, ce qu'il était pour accomplir en 2017, 18, 19, 20, 21, 22, à travers la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on a fait, je m'en souviendrai toujours, lorsqu'on a fait dans cette salle le vote pour la fusion de Nouvelle Vie, Nouvelle Vie de la Prairie, les gens, vous avez voté, je pense que c'était 99% qui ont voté pour cette fusion. Et lorsque, juste avant de sortir, il y a un monsieur qui m'a pris à part et m'a dit, vous là, Pasteur Claude, là, vous pensez que ce que Dieu fait à Longueuil, Dieu peut le faire partout. Mais ça marchera pas ici, à la Prairie. Vous connaissez pas la Prairie. J'aimerais dire, je connais notre Dieu. Je connais ses promesses. Combien savent qu'il y avait des promesses qui avaient été préparées par le jeûne, la prière, le sacrifice, mais non réclamées. Nous voulons réclamer. Dieu n'a pas fini, n'a pas épuisé ses promesses pour nous en tant qu'Église. Nous allons entrer ensemble en 2023 et aller chercher tout ce qui était non réclamé au nom de Jésus. Vous devriez dire un vrai amen. Nous disons amen, nous ne voulons jamais retenir les promesses de Dieu. En tant qu'Église, je regarde cette salle qui est pleine, on me dit que la deuxième réunion est remplie également. Nous disons toujours amen, alléluia, nous disons jamais assez Seigneur. On dit jamais c'est assez. Nous disons toujours super Seigneur, pas stop Seigneur. Nous disons toujours wow, jamais wow. Nous disons toujours merci Seigneur, jamais mollo Seigneur. Nous disons toujours Seigneur merci. Nous acclamons ce que tu as fait déjà en réponse à la prière, mais nous avons des attentes pour nos enfants, pour notre famille, pour notre vie. Nous attendons à encore plus par la prière dans le nom de Jésus. Et l'Église de la Prairie dit un grand amen. Pourquoi une série de prières sur de messages sur les prières sur tous nos sites janvier, février, sur les prières que des hommes et des femmes, comme vous et moi, ont priées dans la Bible. Parce que je crois que le vrai enjeu, le vrai défi de la prière pour plusieurs personnes, j'ai tellement de nouveaux à la Prairie, je vais parler à vous, mais c'est des choses qui prennent place, des défis qui sont dans la vie de certains qui sont là depuis des années aussi. Si on est cœur à cœur ce matin, le vrai enjeu de la prière, je crois pour un grand nombre, n'est pas un enjeu d'information ou d'intention. Tout le monde a été informé. La majorité des croyants, des chrétiens, savent qu'il est bon de prier. Combien d'entre vous, si je dis, il est bon pour un chrétien de prier? Vous êtes informé de ça? Vous êtes d'accord avec cette phrase? Dites amen. Amen. Et c'est pas non plus, je crois, un défi. La majorité savent qu'il faudrait que je prie plus. C'est pas non plus un défi d'intention. Au mois de janvier, il y a quelque chose qui monte en nous. Cette année, là, je veux prier encore plus. Mais ça peut me faire penser un peu à ce qui se passe à mon gym à tous les ans. À tous les mois de janvier au gym, là, je les ai vus arriver, les premières semaines de janvier, le gym se remplit de gens qu'on n'a jamais vus. Ils sont passionnés, ils ont signé pour un an, ils ont des objectifs. La semaine passée, au gym, il y avait un monsieur à côté de moi, il avait gardé ses étiquettes sur son nouveau kit de workout. Il avait encore les étiquettes dans le dos. Je ne sais pas si cette année va être différent, mais si vous avez commencé un gym cette année, soyez bénis, c'est merveilleux. Mais à tous les ans, vers le mois de mars, avril, ça disparaît tranquillement. C'est pas une question d'intention. Notre défi n'est pas au niveau de l'intention. Notre défi est très souvent au niveau de l'identification. Dans certains cercles, la prière nous a été présentée que souvent comme tellement inaccessible, comme une espèce d'élite spirituelle, de super-héros chrétiens, que c'est difficile même de s'identifier. Est-ce que moi, je pourrais vraiment faire ça? Moi, un de mes pères spirituels, et je suis tellement reconnaissant à lui, c'est lui qui m'a, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur il y a plusieurs années. Mais mon pasteur, mon premier pasteur, lorsqu'il prêchait sur la prière, souvent, là, c'était sévère. C'est un pasteur que les chrétiens disaient, lui, là, il nous a brassé à matin. Là. C'est un pasteur, ça nous avait brassé à matin. Et un matin, je me souviens, j'étais nouveau chrétien, j'avais 18 ans, et puis il a prêché sur la prière, puis il était choqué. Alors, il s'est mis à prêcher. Moïse avait 80 ans, puis il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Puis John Wesley, le grand revivaliste, avait 85 ans puis priait 5 heures par jour. Puis il y a des jeunes ici ce matin, vous êtes dans vingtaine, vous n'êtes même pas capable de prier une heure. Moi, je te dis, c'est moi ça. Le lendemain matin, là, je suis prête. J'ai mis mon cadran à 6 heures. Je me suis dit, m'en prier une heure là, quand même. Là. Jésus a dit, ne prouvez pas, veillez une heure avec moi. Oui, une heure. Alors, je me suis mis à marcher, puis j'ai prié. Tout le monde que je connais, l'Église, tous les noms. J'ai commencé avec les missionnaires. J'étais rendu en Afrique, dans le fond de l'Afrique. Après, puis là, je me suis dit, je vais m'encourager. Ça doit faire tellement longtemps que je prie, je vais faire une heure. J'ai regardé ma montre, ça faisait 2 minutes 35 que je priais. Alors je me suis dit, ça doit être ma position qui est pas bonne, parce que les vraies prières, là, les photos de la prière là, sont toujours comme un peu comme agenouillées, comme ça. Là. C'est ça la photo de la prière. Fait que je me dis, marcher, ça doit pas être bon. Alors je me suis agenouillé sur le bord de mon lit. Il y en a qui savent qu'est-ce qui s'est passé. À 17h18, je me suis agenouillé sur le bord de mon lit et je me suis réveillé à 8h10 avec un petit coulis de bave. Je pense que c'est pas notre défi n'est pas un défi d'information ou d'intention, ou d'inspiration, mais c'est surtout un défi d'instruction. Je crois qu'il y a un secret que personne ne veut avouer. Il y a plein de gens qui, tant qu'arrive le moment de prier, savent pas quoi dire. On sait pas comment prier. Les disciples qui marchaient avec Jésus ont dit, Seigneur, enseigne-nous, prouve-nous qu'on devrait prier. Comment prier? Et la Bible est fantastique parce qu'elle ne se limite pas à nous lancer le projet de la prière. Elle nous donne des plans de prière. Des hommes et des femmes de tous les âges, tous les milieux, toutes les pressions, tous les arrière-plans, comme les nôtres, qui ont prié des prières dans la Bible que Dieu a exaucées et qui nous donnent comme un plan pour progresser, pour pratiquer dans nos vies personnelles, et des prières qui sont étonnamment et puissamment pertinentes à ce qu'on vit maintenant. Ce matin, nous allons regarder ensemble, découvrir ensemble au cœur une prière là, qui est au cœur de l'expérience humaine. Il n'y a personne ici qui est hors, qui n'a pas besoin de cette prière. Au cœur de l'expérience et du besoin humain universel à travers les âges, à travers toutes les cultures, les époques, elle est vitale pour toi et moi. C'est une prière qui nous enseigne comment briser les liens générationnels dans nos vies. Comment briser les liens générationnels dans nos vies. L'impact immense et sous-estimé du mélange de l'hérédité, de l'environnement familial, social, culturel, émotionnel, psychologique, spirituel, religieux. C'est un sujet qui est tellement profond qu'on y a consacré 2 messages prêches ce matin et le deuxième message est déjà en ligne. Alors, si ce matin, ça fait, on va chercher quelque chose dans votre cœur, vous pouvez aller chercher le deuxième message qui est déjà en ligne, qui s'intitule « Pourquoi tant d'hommes de Dieu sont-ils tombés et comment pouvons-nous protéger notre appel et notre destinée? » La Bible enseignait depuis des millénaires avant la psychologie moderne l'influence insoupçonnée des milieux familiaux et des transmissions intergénérationnelles. Tant les positives que les négatives. Ce que la psychologie moderne appelle la psychogénéalogie. Une de mes collègues, sa fille prend un cours de travailleuse sociale à l'Université de Sherbrooke, et dans sa première session, dans un seul cours, il y avait un cours qui s'appelait la psychologie moderne. Il y avait dans un seul cours plus de 100 livres de références sur ce sujet-là. Je vous donne quelques-uns des titres. 100 livres sur toute la dimension générationnelle. Les enfants, quelques titres. Les enfants malades de leurs parents. Des frères et sœurs, les liens complexes de la fraternité. L'enfant et la souffrance de la séparation. Divorce, adoption, placement. La différenciation du soi, le triangle et les systèmes émotifs familiaux, la famille et les secrets de génération et cycle de vie. Au carrefour des temps chronologiques et psychosociaux, et un livre, une brique de 300 pages, Dictature affective, se libérer du temps et des liens généalogiques. Moi, je suis reconnaissant pour tout ce que la connaissance humaine peut contribuer à aider un être humain. Mais j'aimerais vous dire, vous déclarer aujourd'hui qu'il y a une aide, il y a une intention divine, il y a une source de force, une capacité, une dimension surnaturelle que Dieu veut communiquer. En d'autres mots, Dieu a cette capacité de venir nous libérer de liens du passé, au-delà de toutes les sagesses et toutes les connaissances humaines. Nous sommes reconnaissants, mais nous reconnaissons ce matin que la source de guérison et de libération de tout lien qui m'empêche de m'emparer de ce que Dieu a pour moi, elle est en Dieu et en Dieu seul. Elle est en Dieu. Alors, on va regarder une prière ce matin. Elle est une prière enfouie dans le livre des Chroniques. Je sais, si je traverse la salle ce matin et je demande quel est votre verset préféré, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire de 1 Chronique, chapitre 1, 2, 3 et 4. Si vous avez déjà fait un plan de lecture de la Bible en un an, le livre des Chroniques, c'est le genre de livre qu'on saute par-dessus lorsqu'on a pris du retard dans notre lecture sur un an. Mais il y a des trésors. Dans les 9 premiers chapitres, c'est des chapitres de génération, de généalogie. Il y a en fait 600 noms imprononçables pour la plupart d'entre eux qui engendrent d'autres noms imprononçables de génération en génération. 600 noms! Pourquoi Dieu? Pourquoi une telle nomenclature? Pourquoi si détaillé, si exhaustive et si personnalisée à l'intérieur de la parole de Dieu? Parce que Dieu dit à chacun d'entre vous, je suis le Dieu de chaque personne. Je sais tout de toi, plus que toi-même. Je sais tout de ce que tu as vécu, des liens passés, des événements passés, des traumatismes passés. Je sais tout de ce qui te retient. Je sais tout de toi, mais surtout, Je veux que tu saches que ton passé n'a pas à définir ton présent et ton avenir, que celui et celle qui vient d'un passé douloureux reçoit de moi une promesse de destinée. Et c'est là qu'on va regarder à un homme qui s'appelle Jabez, dans 1 Chronique, chapitre 4, quelques versets seulement, au verset 9. Jabez était plus considéré ou plus honorable que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, si tu me préserves du malheur, afin que je ne sois pas dans la souffrance et que je ne fasse pas de mal. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Pouvez-vous imaginer, sa mère l'a nommé Jabez. Elle l'a nommé souffrance, elle l'a étiqueté. On n'a pas les détails, on n'a pas toutes les circonstances. Mais c'est bien au-delà d'un accouchement difficile, parce que le mot Jabez veut dire souffrance, désespoir, traumatisme, déchirement, blessure, douleur, un mal profond. Il est engendré, destiné à la douleur. Et Jabez a prié une prière que je vais vous enseigner ce matin, qui est très loin d'être seulement quelques mots sur une page de la Bible pour moi. C'est une prière de vie pour moi. C'est une prière que ça fait une quarantaine d'années que je prie. Presque chaque jour, plusieurs fois par semaine. Parce que la phrase, elle lui donna le nom de Jabez parce qu'il est né dans la souffrance. Il est né dans la douleur. Était une grande réalité pour moi. Ma mère m'a donné naissance dans la douleur, dans la souffrance. Il y a 60 ans, ma mère toute jeune, à peine 20 ans, a marié un homme beaucoup plus vieux qu'elle. C'était une autre époque. Ils se sont fréquentés sans même se connaître pendant quelques mois, à peine. Mon père était un homme violent, alcoolique, bipolaire, d'une violence extrême. Et à partir du premier jour de son mariage, elle subissait une violence qui était inexplicable. Les plus loin souvenirs. Et ma mère m'a dit, des années plus tard, lorsque j'étais adulte, ma mère m'a dit qu'elle voulait le quitter, mais elle est tombée enceinte de moi. Elle a pensé et cherché à un avortement, mais c'était il y a 60 ans, c'était comme pas possible pour elle. et elle m'a eu dans la douleur, seule avec un mari alcoolique et violent. Mes souvenirs d'enfance les plus loin sont mon frère qui vient me rejoindre dans mon lit, je le tiens dans mes bras, et nous sommes dans une maison où il y a du sac, où ça frappe, où ça crie, où il y a de la peur, où nous avons peur, où mon père est comme un lion enragé qui rôde dans la maison, puis on sait jamais quand il va rentrer dans la chambre, commencer à nous frapper nous aussi. Mes souvenirs les plus loin de l'adolescence, c'est que je suis devenu ce que j'ai détesté. Le cycle est en moi. Alors, de dépendance, d'une colère, d'une rage, je me faisais mettre dehors de toutes les écoles, de me battre tout le temps, d'un très jeune âge d'être pris dans toutes sortes de dépendances, de commencer à boire à un très, très, très jeune âge. J'ai des flashs de me faire battre à un point, d'être à l'hôpital avec les membres cassés, d'être... Je me souviens, à 15 ans, un matin, à 7h30 le matin, il y a une petite famille qui passait en voiture et m'ont vu, j'avais sorti la veille, j'avais fait un blackout. On voit un jeune homme couché sur le bord du fossé. J'étais à quelques pieds des autos qui passaient, puis j'étais sous mort, je m'étais vomi dessus, couché sur le bord d'un fossé. Bon, il y a un petit gars dans le fossé. On a arrêté, on sorti de là, on réussit à m'emmener au poste de police, m'ont réussi à me ramener à moi-même pour que je retrouve chez nous. Il y a quelques années, un dimanche matin très tôt, le dimanche de nos concerts de Noël où je m'apprêtais à prêcher la parole de Dieu toute la journée, à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile qui avait transformé ma vie. Mon frère m'a appelé ou m'a texté à 7h30 le matin, mais je regarde la page couverture du Journal de Montréal. La page couverture du Journal de Montréal, c'était mon meilleur ami d'enfance, Emilio. On a grandi ensemble, on a fait tous les coups ensemble, qui avait été assassiné. Ils l'ont tiré et dans sa Range Rover, puis ils ont poussé son auto jusqu'à devant sa maison. Ils ont klaxonné pour que sa femme et ses enfants le voient assassiné. Et lorsque j'ai regardé la page couverture Journal de Montréal avec l'image sordide de mon ami, un criblé de balles dans son sang devant sa maison, j'ai commencé à louer Dieu dans mon bureau. Seigneur, si c'était pas de ta grâce, si c'était pas de toi, si c'était pas, Seigneur, de ton amour, de ta grâce, de ton message, c'est moi qui serais dans cette voiture-là. C'est lui qui a changé. J'étais né dans la douleur, mais Dieu a renversé la douleur en destinée. Non, 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 non. Si Dieu a renversé la destinée de ta vie ou de ta famille par son évangile, je veux que tu lui donnes une vraie ovation et pousse un cri de victoire ce matin. T'es né dans la douleur. Et peut-être que t'es ici ce matin et c'est quelque chose de très, très lointain, une souffrance très lointaine ou proche. Une souffrance dans ta jeunesse ou proche, un abus, un divorce, un déchirement, un manquement. Il y a un événement, une tragédie qui a pris place. Même dans les derniers 3 ans, à travers la pandémie, tu portes une souffrance ce matin. Écoute-moi, le Dieu de Jabez est là pour toi. Jabez a transcendé sa douleur. Il a été transformé pour sa destinée. Il avait été habité par la honte. Par la honte de son héritage, mais il est devenu plus honorable que ses frères. Le mot kabed, honorable qu'il trouve ici, c'est pas pour le comparer ses frères, t'es des losers, puis lui t'es meilleur. C'est littéralement la destinée de Dieu qui dit, le mot kabed qui veut dire plus honorable, plus digne d'honneur, plus considéré. Sa vie portait une valeur plus grande, un poids éternel plus grand. Le mot kabod, c'est la même racine que le mot kabod, la gloire de Dieu, le poids de Dieu. Si tu penses que ta vie n'a pas de poids, si tu penses que ta vie n'a pas d'impact, détends-toi ce matin. La bénédiction de Dieu peut nous élever au-dessus d'un père abusif, d'un milieu religieux qui a écranglé, étouffé ton appel. Ce matin, la main de Dieu peut nous élever au-dessus de cela. Briser ces liens-là pour que je m'empare pleinement de ma destinée. Vous devriez dire amen avant que j'explose ce matin. Alors, qu'est-ce que Jabez a prié? Et on va le prier ensemble ce matin. Moi, je prie ça depuis 40 ans. Il a prié pour le pouvoir et le miraculeux. Il a prié, élève-moi. Jabez était plus honorable que ses frères. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que ta main soit sur moi, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je vais vous dire comment moi je le fais. C'est pas légaliste, c'est pas une formule magique. Mais ça fait 40 ans que moi, je prie de cette façon-là. Je fais ça comme ça. Je mets mes mains sur mon cœur et je dis, Seigneur, asseyez-le, vous allez voir. Ça fait pas mal, asseyez. Si tu me bénis et que ta main soit sur moi, toute la voix avec moi, si tu me bénis et que ta main soit sur moi. » Oh! Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et bénis-moi, le mot barak. En hébreu, c'est un mot bidirectionnel. Comme bénir Dieu, s'agenouiller, devenir, venir devant Dieu, le bénir en adoration pour recevoir sa barak, sa bénédiction. Le mot bénédiction traduit de toutes ces façons. Bénédiction, sa faveur. C'est la faveur de Dieu sur nous. C'est la main de Dieu sur nous. C'est la capacité de Dieu. C'est l'apport de Dieu. C'est l'appui de Dieu sur nous. C'est les bénéfices de Dieu sur nous. C'est la capacité divine de Dieu. Nous avons banalisé le « que Dieu te bénisse ». On dit ça en passant à d'autres choses. On dit ça des fois pour faire finir une conversation. On dit ça en route vers que Dieu te bénisse sans même regarder la personne dans les yeux. Cette prière, nous avons banalisé. Ce n'est pas une salutation machinale. C'est le surnaturel de la main de Dieu qui peut venir changer une vie. Si tu me bénis, si tu viens, si tu pourrais me bénir. C'est cette prière qui a transformé Jabez d'une mentalité de brisement, de blessure, de blâme, de bassesse à une mentalité de bénédiction. De capacité divine, dans Jean chapitre, de pouvoir divin, dans Jean 1, 12, 13 et 16, voici pour ceux qui croient en Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Voulez-vous dire à voix haute avec moi le pouvoir de devenir? Le pouvoir de devenir. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté et des limitations des hommes, lignées générationnelles, mais de Dieu, et nous avons tous reçu de sa plénitude, de grâce en grâce. Question pour toi qui as reçu et qui crois au nom de Jésus. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes ici dans ce lieu ce matin qui disent « Oui, moi je n'ai pas honte de le dire, je crois et j'ai reçu le Seigneur Jésus. » Alors la question de l'esprit, c'est est-ce que tu continues à rechercher passionnément une nouvelle mesure, dimension, une nouvelle portion de sa plénitude pour devenir. C'est ce que Jabez a fait. Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis et que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Le pouvoir de devenir de grâce en grâce. La plénitude. Nous avons tous reçu une infime portion de la plénitude de Dieu. Ce matin, si tu crois que tu as épuisé la plénitude de Dieu, si tu crois que tu as eu tout de Dieu, ce que tu avais à avoir, si tu crois que la grâce est seulement pour le salut, ou si tu crois que c'est seulement pour l'état que tu es actuellement, tu as laissé l'ennemi te mentir. J'aimerais te dire que Dieu a dans son cœur le désir de voir son peuple à tous les jours, dire merci pour la bénédiction d'hier, merci pour la portion de la plénitude que j'ai eue jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette année, 2023, dans mon entreprise, dans mon travail, avec mes enfants, dans mes études, dans mon cœur pour toi, Seigneur Dieu, viens, élève-moi, viens, bénis-moi, que ta main soit sur moi. Élève-moi au-dessus de mes limites générationnelles, de mes carences, élève-moi au-dessus de mes traumatismes, de mes peurs maladives, de mes tragédies, de mes dépendances. Élève-moi au-dessus d'un deuil que j'ai pu vivre, de certaines hérédités, de mentalités, de cycles, de comportements, de manière de penser, de réaction, de peur que j'ai hérité. Remplis-moi et aujourd'hui, donne-moi le pouvoir de devenir. Donne-moi aujourd'hui, par ta bénédiction, ta main sur moi, le pouvoir de devenir plus aimant, plus doux, plus patient. Donne-moi le pouvoir de devenir un meilleur mari, meilleure épouse, un père plus attentif. Donne-moi le pouvoir sur des choses secrètes que seulement toi tu connais. Aujourd'hui, par ta bénédiction, viens renverser, viens protéger, viens renverser, viens libérer, viens déraciner. Donne-moi le pouvoir de devenir. Donne-moi le pouvoir d'être sobre, d'être libre. Seigneur, bénis-moi. Mon passé m'a marqué, mais il n'a pas à me définir. Les mains humaines, comprenez ce que je veux dire par les mains humaines, les comportements, les backgrounds, les mains humaines m'ont affecté et amoindri, mais ta main peut me ramener vers l'abondance. J'aime tellement, vous pouvez applaudir la main de Dieu, si ta main est sur moi, s'il y a quoi que ce soit qui ait pu prendre place en 30 ans de nouvelle vie, c'est seulement à cause de la main de Dieu. la main de Dieu qui change tout. Quel que soit ce que les mains humaines ont fait, la main de Dieu, même si les mains humaines m'ont affecté et amoindri, ta main peut me ramener vers l'abondance, ta bénédiction vers l'abondance. J'aime beaucoup cette image toute simple, mais du petit garçon qui est devant la confiserie, devant le magasin de bonbons le plus cher de la ville, chocolat et bonbons, le plus cher, le plus succulent de la somptueuse de la ville. Il est debout devant la vitrine avec des grands yeux à l'extérieur et il ne dit rien. Et à l'intérieur, il y a le propriétaire qui est là, puis il voit le petit garçon, il dit « va-t'en là, c'est bon. Ousse. » Le petit garçon fait rien, bouge pas, il a juste là les grands yeux. Et le propriétaire se parle à lui-même, il marmonne, je vais pas commencer à faire des cadeaux à tous les enfants qui viennent ici avec des grands yeux, je suis un commerçant, il faut que je fasse de l'argent, j'ai un commerce, j'ai des... Et là, il fait passer mon petit garçon qui dit rien, il est juste là avec ses grands yeux. À bout de force, il capitule, le propriétaire du petit garçon, rentre ici, le petit garçon, comme un éclair, bat le record du 100 mètres mondial de Usain Bolt et arrive devant le monsieur sort la jarre, sort le pot des bonbons les plus extraordinaires et puis il dit, ah ouais, bon, vas-y, prends-en. Le petit gars fait rien. Il est là, puis il regarde. Avant que je change d'idée, vas-y, prends-en. Le petit garçon, il est là. Oh, avec sa grosse main, il met dedans. Puis il donne, pourquoi t'en as pas pris? Parce que ta main est plus grande que la mienne. Je vais la laisser se rendre jusqu'en arrière. Combien savent que sa main est plus grande que la nôtre? Combien savent que sa main est plus grande que n'importe quel mec? Oh, vous devriez applaudir la main de Dieu. Est-ce que tu sais que la volonté et la joie de Dieu envers toi n'est pas de te voir dans la petitesse et la pauvreté, mais que je parle spirituellement et à tout égard, mais que tu grandisses dans la plénitude, dans sa plénitude et sa prospérité? Oh my God! Pasteur Claude a dit le mot en paix. Prospérité. Je savais que c'était un preacher de prospérité. Je refuse, je dénonce, je rejette entièrement tous les excès et les hérésies même de l'évangile, du faux évangile de prospérité matérielle qui pollue le corps de Christ et salit le nom du Seigneur. Mais écoutez simplement la parole de Dieu. 3 Jean 1 et 2. À une personne à la fois, il nomme ton nom, il nomme un nom à un ancien de l'Église, à Gaius le bien-aimé que j'aime dans la vérité, dit Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quelle vérité vient de la décrire? La vérité que c'est le désir de Dieu que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Il n'y a pas de plus grande joie dans le cœur du Père que de nous voir marcher dans sa bénédiction. Bénis-moi et que ta main soit sur moi. Je ne parle pas d'une bénédiction ou d'une prospérité matérialiste et égocentrique, axée sur l'accumulation de biens matériels, de l'orgueil, du statut social, qui se vante d'obtenir des possessions pour être vu. Non, je parle. La parole de Dieu nous appelle à marcher dans la vérité que Dieu désire nous bénir, avoir sa main sur nous afin que nous soyons une source de bénédiction. Amen. C'est l'appel ultime d'Abraham, c'est l'appel universel. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Et en ce début d'année, pendant le temps de jeûne, il y a deux passages que je vais citer dans le message que Dieu m'a donné, ce passage que je prie pour vous, que je prie pour l'Église de la Prairie, que je prie pour Nouvelle-Vie de la Prairie, que je prie pour toi, pour ton couple, pour ta famille. Genèse chapitre 26, versets 12 et 13. Isaac sema dans ce pays et il fut béni cette année-là au centuple, car c'était l'Éternel qui le bénissait. Bénis-moi et que ta main soit sur moi. Cet homme devint prospère et Dieu le multiplia de bénédiction en bénédiction jusqu'à ce qu'il devienne très riche en bénédiction. Savez-vous ce que le mot prospérer veut dire? Prospérare, faire réussir et s'épanouir, aller plus loin que. Après une saison de douleur, de difficulté, entrer dans une période de croissance et de développement. pour tous ceux d'entre nous qui avons eu ces tentations, ces moments de nos vies où ce que je voudrais être ailleurs, je voudrais dans un autre endroit et dans un autre mariage, je voudrais sortir, je voudrais... Et pour tous ceux qui disent, oh, le Québec est tellement terrible, le Québec est tellement antichrist, j'aimerais vous dire que ici, Dieu dit, il y a quelque chose qui monte en nous cette année, nous allons semer ici, dans ma vie, avec mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, mon église, ma ville, la prairie, nous allons semer ici et cette année, 2023, Dieu va bénir. Cette année, ici, cette année. Ici, Isaac a semé dans ce pays, ici, dans ma situation, dans mon contexte, dans mon arrière-plan, mon passé, ma maison, mon mariage, en cette année, dans ce contexte social et économique et tout, cette année, nous allons semer ici et voir la main de Dieu. C'est pour ça que ça fait 30 ans que je suis pasteur de Nouvelle Vie. Je n'ai jamais dit ça au début d'une année. Mais depuis, à la fin de l'année, et depuis le temps prolongé de jeûne et de prière, on continue à jeûner dans le mois de janvier en cycle de 3 jours. Mais j'ai Dieu a déposé sur mon cœur, c'est l'année du 30e anniversaire de Nouvelle Vie. C'est pas un slogan, c'est une conviction dans mon esprit. Hashtag MAV, meilleure année à vie. Il y en a 3 qui le croient. Hashtag MAV, meilleure année à vie. Hashtag MAV, vous allez voir ça partout pendant toute l'année, meilleure année à vie. Puis j'entends des gens dire, oh, pasteur, comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que tu peux dire une affaire comme ça avec l'économie, la récession, tout ce qui est autour? Tu sais pas ce qui se passe dans ma vie, tu sais pas. Est-ce que je peux vous dire un secret? Depuis que j'ai lancé MAV, hashtag MAV, meilleure année à vie, j'ai plein de choses qui se passent, d'attaques, de nouvelles, de situations dans ma propre vie, autour de moi, famille, autre, église, autre, plein d'affaires pour me dire, aïe, aïe, c'est plutôt pire année à vie que ça. Mais non, meilleure année à vie. Comment est-ce que tu peux dire une affaire comme ça? Parce que je ne peux pas contrôler les incontrôlables extérieurs. Mais je peux invoquer l'Éternel qui est en charge de toutes choses. Et si, écoute bien, si le seul objectif que je me donne cette année, je viens de lancer ça à tout le staff, à tous nos directeurs la semaine dernière, à Nouvelle Vie, je vais le faire au staff en entier, cette année, après plus de 40 ans à marcher avec Dieu, à jeûner, à prier, cette année, je peux décider d'avoir ma meilleure année à vie dans la prière, ma meilleure année à vie à le chercher. Parce que si je fais de cette année ma meilleure année à vie dans la présence de Dieu, Dieu va donner la meilleure année à vie dans toutes les autres sphères de ma vie. Quelqu'un devrait dire amen. Je ne contrôle pas l'incontrôlable, mais je peux choisir d'invoquer l'Éternel comme j'appelle. Et de prier, Seigneur, que bénis-moi et que ta main soit sur moi. Élève-moi, la dernière partie de la prière, et étends-moi. Si tu me bénis et que tu étends mes limites et que ta main soit avec moi, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je sais qu'au mois de janvier, habituellement, après les excès des fêtes, on ne prie pas « Seigneur, élargis-moi », on prie « Seigneur, amincis-moi ». Mais je pense spirituellement, est-ce que vous êtes prêts à prier? Voici comment moi je le fais. Encore une fois, aucun légalisme là-dedans, mais si jamais vous passez en voiture, dans le stationnement d'église, matin le bonheur ou en fin de journée, puis vous me voyez prier, bon, vous regardez juste à travers la fenêtre, vous allez savoir ce que je fais. Parce qu'après, plusieurs fois par semaine, si ce n'est pas chaque jour, il y a un moment où je dis « Seigneur, bénis-moi, que ta main soit sur moi », et je prie « Étends mes limites. » Faites-le sans frapper personne. Faites-le avec moi. Étends mes limites. Essayez-le. Bénis-moi. Que ta main soit sur moi. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites relationnelles, émotionnelles. Étends mes limites spirituelles. Étends mes limites, Seigneur, dans ce que je peux accomplir pour toi. Étends mes limites dans ma carrière, dans mon travail, mon entreprise, dans mon mariage. Dans la vie de mes enfants, étends mes limites pour de mon cœur pour toi, de ma compassion, de mon obéissance, de ma foi, de ma sensibilité à obéir à ce que toi tu mets sur mon cœur. Étends mes limites. Ne laissez personne d'autre que Dieu déterminer vos limites. Étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur. C'est le cœur même, vous savez, c'est le cœur même, c'est l'essence. 30e anniversaire de Nouvelle Vie cette année, on va célébrer pendant toute l'année, mais l'essence de Nouvelle Vie, c'est un groupe d'hommes et de femmes, une poignée de personnes, qu'on avait un cri dans notre cœur 75 ans d'histoire évangélique avait dit, voici les limites d'une église chrétienne au Québec. C'est ça, une église évangélique au Québec. 98% des églises sont 80 personnes ou moins. Et voici ce qu'ils font. Ils se rencontrent entre eux. Il n'y a pas d'impact dans la ville auprès des gens. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de deuxième génération. Il n'y a pas de, voici maintenant. C'est ça, les limites. Ils se sentant complètement inadéquats, se sentant complètement tellement incapables en nous-mêmes. Mais il y avait un cri dans notre esprit. Seigneur, tu es le Dieu qui est capable d'étendre nos limites, de ce que l'Église peut être, de ce que tu veux que nous soyons, de ce que nous pouvons accomplir, des âmes que nous pouvons toucher, ce royaume de Dieu que nous pouvons bâtir. Je sais que c'est le cœur de Pasteur Ben, c'est le cœur de Pasteur Sophie, de toute l'équipe ici. C'est notre cœur de dire, Seigneur, nous voulons continuer à courir dans la voie de tes commandements, le psaume 119. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Si tu oses prier ça à chaque jour, Seigneur, je veux continuer à courir dans tes commandements, car tu élargis mon cœur, Dieu va élargir ton cœur. Dieu va élargir ta vision, Dieu va élargir ton amour, va élargir ta capacité de pardon, de guérir, va élargir ta capacité de rebondir lorsque tu as été offensé, va élargir ton impact, va élargir ton onction, va élargir dans des dimensions que tu peux même pas imaginer. Je veux parler, je vois beaucoup de jeunes ici, c'est tellement beau, mais je vois aussi des chrétiens de cinquantaine, soixantaine et plus, des gens qui ont bâti le royaume de Dieu qui, et je peux le dire à l'âge que j'ai, ça fait 40 ans que je marche avec Dieu. Des gens que j'ai côtoyés qui ont bâti le royaume de Dieu pendant des années, ont cherché la bénédiction pour bénir. Mais quel danger! Quel danger d'arriver à une place dans nos vies où Dieu ne peut plus me déranger, où Dieu ne peut plus m'étendre, où maintenant je suis béni pour être béni, je suis béni pour être assis sur ma bénédiction, je suis en retraite. Tu peux prendre ta retraite de ton travail, mais jamais de retraite dans la destinée de Dieu pour toi. Il n'y a jamais de limite. Si je mets des limites à sa transformation dans ma vie, je vais limiter mon témoignage. Si je mets des limites à mon pardon, je vais limiter sa présence et sa puissance sur moi. Si je mets des limites à mes semences de foi, je limite le surnaturel et la faveur de Dieu sur ma vie. Si je mets des limites à ma communion, à la communion de mon cœur vers lui, à ma communion à mon cœur qui se tourne vers lui, je limite les conquêtes que lui a préparées pour moi. Si je limite mon bénévolat, mon implication, je limite sa bénédiction, ce qu'il veut faire à travers moi, ce qu'il veut bâtir en moi qui est le plus beau. Si je limite mon sacrifice et mon service, je limite le surnaturel dans ma vie. Si je limite la mesure de ce qu'il peut faire, je limite la main de faveur sur nous. L'année 2023, j'arrive à la fin du message, l'année 2023 a commencé d'une manière particulière pour des millions d'Américains. Millions d'Américains ont commencé l'année 2023 en prière. Pas nécessairement parce qu'ils étaient dans leurs églises, beaucoup de les églises ont fait des semaines de prière et tout ça, mais live, devant des millions de personnes, sur un terrain de football, le 2 janvier 2023, moi j'étais assis avec un couple d'amis pour regarder cette game de football, là, c'est des amateurs de football américains. Les Bills de Buffalo jouaient contre les Bengals de Cincinnati et il y a un joueur des Bills, Damar Hamlin, qui a été frappé et s'est effondré au sol. Son cœur s'est arrêté de battre, il est cliniquement mort. Le match a été annulé, les ambulances sont arrivées, médecins, manœuvres de réanimation, arrêt cardiaque. Et spontanément, lorsque le jeune te partage, et ça, une des seules fois dans l'histoire de la NFL, ils ont annulé le match, personne n'était capable de continuer. Mais lorsque il est tombé comme ça, les ambulanciers, les palettes, la machine, la réanimation, il n'y a rien qui faisait, spontanément, tous les joueurs se sont mis à genoux, ont commencé à prier. Il s'est relevé de là, il est 3 jours, il est allé à l'hôpital, le cœur est reparti, il est allé à l'hôpital, il a été 3 jours dans le coma, ça ne va pas ce qui était pour arriver, mais le lendemain, là, je pourrais montrer des extraits vidéo, allez voir sur YouTube, le lendemain, il y avait l'Amérique qui priait. Il y avait des sportscasters, des animateurs, tout ça, qui priaient pour lui. Le jeune homme a sorti maintenant, complètement sorti, aucun trouble neurologique, aucune séquelle. 2 semaines plus tard, il est revenu même assister au match de ses coéquipiers de manière complètement miraculeuse. Mais l'affaire qui m'a fait sourire, c'est qu'avant qu'il soit frappé comme ça, il avait parti une petite fondation pour acheter, très, très, très petit, pour acheter des jouets pour la garderie de sa mère dans un quartier défavorisé. Mais pendant qu'il était dans le coma, il y a eu 9 millions de dollars qui ont rentré dans sa fondation. Dites à quelqu'un près de vous, ça en fait des jouets, ça. Dites ça à quelqu'un près de vous. Et ce qui m'a fasciné, ce que j'ai dit, l'Amérique entière en prière. Et ce qui m'a fasciné, je regardais le terrain, ces gros gars-là de 150 kilos là, de muscles et mastodontes. Il y avait une centaine de multimillionnaires sur le terrain qui ont réalisé que leurs millions ne pouvaient pas refaire rebattre le cœur de leur ami, mais que Dieu pouvait le faire. C'est une des choses... J'étais fasciné qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme-là dans la force de l'âge, si fort. Il y a un diagnostic qui a été fait avec une expression que moi j'entendais pour la première fois. Les experts médicaux estiment que ce qui est arrivé à Damar Hamlin, c'est que ça a été causé par deux facteurs. Une prédisposition héréditaire et, j'avais jamais entendu cette expression-là avant, une commotion cardiovasculaire. Moi je connaissais une commotion cérébrale, j'en ai eu des commotions cérébrales où il y a un choc au cerveau. Mais enfin, une commotion cardiovasculaire, c'est un coup au cœur. Et quand tu vois la reprise, l'autre joueur a rentré toutes ses forces avec son casque, un coup au cœur qui fait que le cœur a arrêté de battre. Et quand j'ai lu ça en étant dans les semaines de jeûne et de prière, je marchais dans mon bureau, il y a un esprit d'intercession qui est descendu sur moi, où Dieu me disait, Claude, tu es le pasteur de Jean. Il y a plein de chrétiens, de personnes qui ont reçu un coup au cœur. Il y a un coup au cœur. Ça peut être dans leur enfance, ça peut être avec leur père, leur mère, leur famille. Ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être pendant la pandémie. Ça peut être un abus, ça peut être une déception. Ça peut être ce qu'eux ont ressenti comme étant une injustice ou une trahison. Mais c'est un coup au cœur qui a comme fait arrêter de battre leur cœur spirituellement. Le cœur pour Dieu, le cœur pour le royaume de Dieu, le cœur pour leur famille, le cœur pour leurs enfants, le cœur pour leur mariage, le cœur est comme arrêté de battre. Je veux que tu dises à mon peuple que je suis celui qui peut les bénir et ma main sur eux étendre leurs limites au-delà de ce coup au cœur que dans ma présence, leur cœur va recommencer à battre pour moi. Dis-leur. Alors, pendant que les musiciens s'approchent, Jabez avait été né, conçu, étiqueté douleur. Mais il a prié, il a invoqué. Il a prié ici pour, il a prié pour le pouvoir. Il a prié pour le miraculeux de la main de Dieu. Si tu me bénis et si ta main est sur moi et si tu élargis mes limites. Et Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Dans le jeûne, le Seigneur m'a donné cette promesse pour nous dans Éphésiens 3, 20, 21. En quelle mesure est-ce que je peux prier? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, jusqu'à l'après-rie, en janvier 2022, jusqu'à son retour. Et l'Église du Seigneur dit un grand, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et que nous avons pu même demander. L'Église de la Prairie, ici, vous êtes une preuve vivante que Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Lorsqu'il y a 30 ans, je cherchais la face de Dieu et que Dieu a conduit à cette vision, a donné cette vision pour l'Église Nouvelle Vie, je n'ai pas prié dans ces premières années. Et Seigneur, donne-nous un site à la Prairie et que Dieu a fait infiniment au-delà de tout ce que je pensais ou que j'osais même demander. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, écoute-moi, ne limite pas Dieu à ce que tu as toujours demandé. Il a des choses infiniment différentes et plus grandes pour toi, infiniment au-delà. Et c'est très, 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 très sensible parce que nous sortons d'une pandémie d'horreur. Nous sortons d'une période de pandémie d'horreur. Il y a un dernier verset de l'Évangile de Luc qui va apparaître à l'écran. Je veux que vous le regardez avec vous le prochain, après les images. L'Évangile de Luc, une parabole qui est là. Dans le jeûne et la prière, dans les dernières deux semaines, le Seigneur est venu me transpercer avec cette parole. Pour nous, en 2022, à quelques semaines du 3 ans depuis le début de la pandémie. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le! Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-lui encore 1 année, laisse-lui encore 7 années. Je creuserai plus profondément tout autour et je nourrirai le sol, je fertiliserai la terre. 3 ans, sans fruit. Et dans l'intercession, je marchais plusieurs heures, il y avait en prière. Il mettait toutes sortes d'images dans mon esprit de gens qui, dans les derniers 3 ans, il y a des choses que t'es, depuis 3 ans, j'avais jamais lu cette parabole-là comme ça. 3 ans sans 3 ans pour plusieurs qui ont été des années de, où il y a eu de la frustration, des années de colère, des années de débat, des années de déchirement dans le corps de Christ. Et peut-être tout près de toi, 3 ans sans, il y a des années, mais dans les derniers 3 ans, je priais pour cette situation, pour cette personne, pour cette bénédiction, cette percée, 3 ans de, et la tentation démoniaque de tout couper. Il y a des millions de chrétiens à travers le monde qui, pendant la pandémie, se sont détachés, ont coupé. Coupé leur lien avec l'Église, coupé leur lien avec le royaume de Dieu, coupé leur lien avec leur destinée, coupé leur lien avec l'appel de Dieu sur leur vie, la destinée de Dieu sur leur vie. Et dans l'Esprit, le Seigneur mis sur mon cœur, dis-leur, donne-toi une autre année. Donne-toi cette année qui est devant toi. Donne-moi l'année 2023. Et voici, pas pour une autre année pareille, pas pour une autre année ordinaire, pour une année meilleure année à vie. Comment nous allons creuser encore plus profondément tout autour, déraciner tout ce qui empêchait le fruit de prendre place. Nous allons nourrir le sol, le fertiliser dans le jeûne et la prière, à la recherche de Dieu, le sol de notre foi. Donne-nous encore, Dieu dit, donne-moi encore cette année. N'abandonne pas, n'abdique pas, ne baisse pas les bras. Prie, Seigneur, bénis-moi, que ta main soit sur moi. Étends mes limites et je veux faire une œuvre par la puissance qui agit en toi. Infiniment au-delà de tout ce que tu pourrais penser ou que tu as prié de génération en génération dans son Église jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui. Et tout le peuple de Dieu dira un dernier grand Amen et Amen. Et je veux que vous acclamiez le Seigneur qui va répondre. Penchez la tête avec moi un instant. La prière, cette prière peut faire une différence ce matin. Le psaume 119 que j'ai lu rapidement, elle dit, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Le psalmiste continue en disant, « Oh Seigneur, laisse-moi garder tes statuts, laisse-moi garder ce cœur qui court pour toi, laisse-moi garder ce cœur jusqu'à la fin, que je le retienne jusqu'à la fin. » Alors l'Esprit de Dieu t'adresse avec amour ce matin, te dit, « Est-ce que tu as arrêté de courir? » As-tu arrêté de courir? Es-tu dans un moment, ce matin, où tu es prêt à dire, Seigneur, bénis-moi. Je veux poursuivre ta bénédiction. Ta main sur ma vie.